Steve Crocker, il est donc temps pour la réunion du conseil d'administration d'ICANN avec les bureaux d'enregistrement. Et comme d'habitude, nous sommes là pour écouter et nous voulons du contenu qui soit bien précis. Nous voulons utiliser le temps à bon escient et nous voulons passer directement aux choses importantes. Je sais qu'avec Mike Kelly assis à côté de moi, nous allons passer à ça tout de suite, je le sais. Mike Kelly, oui, merci. Mike Kelly Nyland, nous avons deux, trois choses que nous voulons discuter avec vous. Comme on l'a fait par le passé, nous avons choisi une personne pour faire développer un des sujets dont nous voulons parler. James Bladel, une des choses, les deux premières questions, nous avons décidé de les combiner parce que le thème était un peu le similaire en général et ces inquiétudes ont été soulevées par les événements de cette semaine et puis les annonces qui ont été faites avant cette réunion de Singapour, mais en général, les bureaux d'enregistrement sont donc inquiets par ce qu'on peut appeler le manque de manière d'avoir des contributions dans les activités de l'Internet. Nous avons senti que l'ICANN en tant qu'organisation allait un peu trop vite au-devant de la communauté. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus confortables aujourd'hui, mieux d'ailleurs que lorsque nous avions mis en place ces questions. Après la nouvelle surtout de l'NTEA et surtout après avoir vu les structures qui ont été mises en place, surtout avec les propositions des quelques mois qui ont été mises en place, des 15 mois, de 12 à 15 mois qui ont été mises en place. Deux des panels de stratégie ont depuis été dissous et... Nous voudrions quand même noter vis-à-vis du conseil d'administration et du personnel que la communauté, du moins notre portion de la communauté, aimerait participer plus et ne pas forcément être en mode de réaction, surtout pour pouvoir donner des informations à nos parties prenantes. Et je pense que c'était ce qui était derrière ces questions. Donc, je voulais quand même souligner que nous nous sentons mieux aujourd'hui qu'il y a deux semaines. Steve Crocker, je vais faire un commentaire général. Quand on parle de l'utilisation continue des groupes de travail, pas forcément en détail, mais nous avons une profusion des panels de stratégie, quatrième panel de stratégie qui a produit un rapport, d'autres groupes qui ont été créés, qui ont été éliminés, et des groupes à haut niveau qui fournissent des contributions pour Net Mondial. Et je reconnais que c'est encore plus difficile de suivre, de tout suivre. Donc, le terme de groupe de travail expert a été utilisé pour beaucoup, pour des projets très spécifiques qui sont en relation avec les WIS, pour l'avenir des WIS. Surtout dans la communauté des bureaux d'enregistrement, vous savez très bien, vous êtes très au courant de ce qui se passe. Mais il y a quelque chose. En général, il y a un fil conducteur. Chacune de ces choses doit générer des idées, mais ne pas prendre des décisions. Ils ne sont pas autorisés, n'ont pas l'autorité et ne sont pas. Le processus de décision doit passer par nos statuts. Ça ajoute beaucoup d'activités. C'est un peu difficile de suivre toutes ces activités. Mais cela enrichit l'ensemble des idées. mais ne pas forcément changer, n'est pas là pour changer le processus de décision, de prise de décision. C'est un commentaire sur l'utilisation générale. Je ne sais pas si cela vous aide ou si ça empire les choses. Je pense que c'est utile. Reconnaître la culture, une partie de la culture d'Aiken, c'est en premier dit James Bladel, c'est de que si les unités constitutives peuvent discuter sur certains sujets, mais ce travail n'est pas forcément les facteurs de prise de décision, mais ces idées ne sont pas Steve Crocker. Il y a beaucoup de manières avec lesquelles nous pouvons erroner le processus. Je dirais en général, disons durant les années passées, nous nous sommes améliorés, nous sommes améliorés. Nous sommes plus raisonnés, nous sommes plus délibérés dans le processus, nous essayons de faire moins d'erreurs. Que ce soit avec le personnel ou les différents SO, les AC. Il y a des années, avec le conseil d'administration, nous avions des sessions de création de versions préliminaires. Très tard le soir, nous ne faisons plus ça. Je pense que cela fonctionne mieux. Nous avons peut-être ralenti les choses. Je ne pense pas que les résultats soient plus lents. Mais une fois que le travail est fait, les choses sont toujours plus faciles. Quelqu'un d'autre veut faire un commentaire là-dessus? Michele, vous avez le micro. Michele, vous n'arrêtez pas de me dire que je suis, que j'ai le contrôle. ça me fait peur. Steve Crocker, ça marche pour moi. Hein. Je ne sais pas si ça marche pour les autres. Michele, d'autres membres du conseil ou d'autres représentants des bureaux d'enregistrement? Quelqu'un un commentaire? Steve Crocker, j'ai des domaines enregistrés dans plusieurs pays. Je n'ai pas de domaine enregistré en Irlande et j'en ai pas qui sont enregistrés dans la compagnie de Michele. Donc là, je pense qu'on peut travailler là-dessus. Merci, Cyrus. Nous allons parler du prochain sujet en ce qui concerne les RAA, les lois nationales du RAA, les règlements nationaux. Là-bas derrière, vous avez un micro? Ah, vous m'entendez maintenant? Pouvez-vous nous donner votre nom? Lindsay Hamilton-Reed, conseil pour Hamilton One? Non, pour 101. Il y a eu beaucoup de discussions sur le RAA. Je pense que certaines de ces... Donc, les choses ont été prévues pour un an. Il y a, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec ce sujet. Ces lois ne sont pas forcément... mais sous la loi, sur les lois, la réglementation européenne, la période de temps n'est pas indiquée. Donc, un an n'aide pas forcément... Mais donc, garder les données pour 3 mois, je ne pense pas nécessairement que je serais heureuse de signer sur cela. Aussi, l'autre problème que nous avons en fait, ça n'a pas été publié pour les commentaires publics, mais nous avons donc quelques problèmes avec cela. Nous voulons donc savoir comment nous pouvons aller de l'avant. Michele, merci. Lindsay, Erika, vous voulez adresser ce sujet? Erika, pour ajouter 2 ou 3 points, il y a beaucoup de confusion là-dessus sur les règlements européens. sur le règlement européen, pardon. Ce n'est pas toujours très logique pour tout le monde. Je voudrais corriger quelques points. Le directeur, les directives courantes actuelles, une directive, cela veut dire qu'un nouveau règlement peut être changé en accordance avec les demandes, un ensemble de demandes, un ensemble de règlements différents. Et nous avons deuxième problème, c'est la rétention des données. Le règlement de rétention de données, c'est une question. Il y a des requêtes constitutionnelles qui ne sont pas toujours rencontrées dans tous les cas. Par exemple, en Allemagne, les règlements posent des questions parce que la loi n'existe pas aux en Allemagne, pardon. Et en dernier, les directives sont sous révision et la Commission européenne a déjà signalé sa révision de la rétention de la législation de la rétention des données. Donc ma recommandation ici, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose que l'équipe de management doit voir. Elle doit parler des obligations contractuelles, mais vous devriez prendre en considération tout cela et ensuite avoir une discussion avec les opérateurs de registre pour voir quelle sera la meilleure des situations stratégiques à mettre en place. Et je serai heureuse d'aider autant que possible. Mais Kelly, il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à contribuer? Huawei, oui, il faut que les bureaux d'enregistrement comprennent que jusqu'à présent, il y a beaucoup de pays en Asie-Pacifique qui ont déjà des règlements de protection des données, des lois au sujet de la protection des données. Donc, il faut faire très attention là-dessus, avec cela. Volker, dit Michael. Volker, je voudrais souligner que beaucoup des problèmes que nous avons maintenant, à mon avis, sont des échecs de processus avec l'ICANN. Quand nous négocions les protections des données, c'est toujours un problème qui est très sensible. Il y a toujours des délais pour les résultats finaux. Et nous avons finalement trouvé une solution en allouant des exclusions pour les règlements de détention des données par les bureaux d'enregistrement, pour les bureaux d'enregistrement des européens, en demandant donc une exemption. Et nous pensons pouvoir travailler avec le personnel ICANN. Et une fois dans ce processus, et une fois que le processus est terminé, il y a donc une exemption qui est fournie comme spécifié dans le RAA. Une opinion légale est demandée, et donc il y a donc un délai pour la première exemption. Nous avons demandé en octobre et en novembre l'année dernière, nous en parlons encore. Souvent, on a l'impression que nous sommes dans un bazar et que nous essayons d'avoir de meilleurs résultats en disant « Oh, si on mettait tant de temps et tant de temps », nous essayons de clarifier que ce n'est pas une négociation, que c'est la loi, que c'est le règlement en place. Et ICANN devrait fournir une opinion légale, juridique, et montrer que nous avons une mauvaise interprétation, ne pas essayer de faire une meilleure affaire, disons. Le personnel de ICANN, essentiellement, a approché la chose par le mauvais angle. nous recommandons au personnel de continuer en urgence avec sur ce sujet, surtout pour le RAA va être dû pour un renouvellement très bientôt. Nous sommes, ils s'apprêtent à signer le prochain RAA et serait bon de ne pas violer les lois nationales. Nous avons eu, nous sommes rendus compte qu'il y avait de la reluctance au niveau du personnel de l'ICANN. Il y a peur qu'il y ait des rétributions de la part des communautés qui ont soutenu la rétention des données en tant que requête dans le RAA. Le problème, c'est qu'il faut que les bureaux d'enregistrement suivent les lois en vigueur au niveau national et être conformes et avec le RAA et avec les lois nationales. Steve, Cyrus Namasi, oui, je voudrais revenir un peu en arrière sur ce qu'a dit Lindsay tout à l'heure. Et aussi rappeler ce qu'a dit Erika, nous comprenons qu'il n'y a pas de loi ou de réglementation uniforme qui fournit de la législation pour la communauté européenne. Notre position est que chaque pays a une interprétation différente. Donc, nous devons approcher les choses différemment d'un pays à l'autre. Donc, en termes de l'ampleur du problème et de la magnitude du problème, il y a un niveau de frustration. ICANN a à peu près 1000 bureaux d'enregistrement accrédités. 17% sont basés dans la zone Europe. De ceux-là, il y en a 50 qui ont déjà signé le RAA 2013, surtout en Allemagne. Je dis cela surtout pour souligner le fait que au sein de ces bureaux d'enregistrement en Europe, il y a des opinions différentes, des interprétations différentes de ce qui doit être fait et surtout au niveau des processus d'exemption. Aujourd'hui, nous avons reçu 15 requêtes d'exemption pour les données vis-à-vis des demandes de rétention de données. Une de ces exemptions a été livrée donc en France. Chaque bureau d'enregistrement français va pouvoir l'utiliser en allant à l'avenir. Nous avons aussi une demande d'exemption en Belgique, en Hollande, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Nous allons aussi vite que possible et les bureaux d'enregistrement bougent avec nous en même temps. Je voulais dire aussi qu'il n'y a pas de réluctance de notre part à participer. C'est un problème très difficile. Il n'y a pas de ligne de démarcation très claire en ce qui s'agit de la rétention, les demandes de rétention de données dans chaque pays. Nous avons besoin d'un effort de collaboration de la part de tous les bureaux d'enregistrement pour que l'on puisse trouver suivre les bonnes manières de faire. Steve Kopfer, merci. Michael et James Bladel, ah oui, c'est une bonne vision de ce qui se passe aujourd'hui. Même ici, nous, en Amérique du Nord, nous observons ce qui se passe. Il y a des discussions en Asie, en Amérique latine. Ce problème n'est pas limité à l'Europe. C'est un problème qui s'étend et d'autres régions sont incluses, d'autres bureaux d'enregistrement qui peuvent être basés en externe de cette région, dans d'autres marchés. Il est donc possible que cela puisse continuer, ce scénario se répète et que d'autres bureaux d'enregistrement demandent ces exemptions. Et nous observons cela, donc l'inquiétude, la préoccupation est que la raison pour laquelle nous en sommes où nous en sommes, c'est que les intérêts différents en dehors de l'ICANN, les intérêts donc des forces de l'ordre ou qui combattent le cybercrime sont ont des opinions différentes de ceux qui protègent les données personnelles en ligne, et nous notre accord est coincé donc entre les deux, et même nos meilleurs efforts de participation au sein de la part de l'ICANN peut être une solution partielle à ce problème. Nous observons cela de façon très assidue, nous sommes solidaires avec nos compétiteurs en Europe, et nous savons que nous allons nous retrouver dans la même situation très vite.
Yes, Volker.
Volker, au micro. Une remarque. Le fait que beaucoup de bureaux d'enregistrement ont déjà signé leur RAA n'implique pas forcément qu'ils ont des obligations qui sont incluses dans le RAA de 2013 et qu'il soit contraignant pour eux. Beaucoup de ces législations ne sont pas applicables. Toutefois, beaucoup de bureaux d'enregistrement aimeraient obtenir cette exemption pour éviter cette situation où ils sont en violation, où ils sont en non-conformité avec la législation nationale et doivent se plier donc à cela. Donc même si beaucoup de bureaux d'enregistrement ont signé ces RAA, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont une opinion différente par rapport à cette question. Merci Volker. Michel Nylon au micro. Je crois que si personne n'a rien d'autre à ajouter sur ce sujet, on va passer à l'autre sujet. Et personnellement, et sans rentrer trop dans le détail là-dessus, je crois que ce que l'on pourrait faire avec le conseil d'administration de l'ICANN, c'est en débattre avec le GAC, parce qu'en dernier ressort, c'est une question qui relève des gouvernements. Mike, oui, ça a été soulevé au GAC, et ils ont dit qu'ils n'allaient pas le traiter. Ça a été soulevé plusieurs fois d'ailleurs. Et il est intéressant de voir que les processus d'exemption ne sont peut-être pas parfaits. Mais on ne cherche pas la perfection ici. Étant donné l'absence de cohérence en Europe, concernant la législation sur les données, je ne pense pas qu'on peut arriver à une situation parfaite, mais il faut trouver une solution pratique. Donc, face à cette situation. Merci, Volker. Dernière intervention. Volker, au micro. Excusez-moi d'intervenir à nouveau. Nous avons proposé une solution à l'ICANN sous forme d'une exemption temporaire pour les bureaux d'enregistrement, et c'est afin que ces demandes ne soient pas retenues trop longtemps, donc des exemptions temporaires qui soient soumises aux commentaires publics et qui que ce soit peut faire une objection par rapport à ces exemptions temporaires. Bien sûr, ça peut impliquer des pertes, mais si on les compare aux pertes dans l'autre cas, elles ne sont pas si significatives que cela. Merci, Volker. Michel au micro. Passons à l'autre point à l'ordre du jour. Jeff. Jeff au micro. Avant de commencer, je voulais attirer votre attention sur le point 4. On a appelé cela travail d'équipe. Euh, Alors, le NGPC et le conseil d'administration sont récemment passés à la catégorie des premiers TLD. Merci pour cela. Et les PIC sont actuellement en train d'être mis en œuvre pour les nouvelles conditions. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, cela veut dire que les opérateurs de registre doivent maintenant mettre en place ces changements. En tant que bureau d'enregistrement, on se plaint un peu, mais pas beaucoup, parce que ça a un sens. Parce que les bureaux d'enregistrement sont le dernier maillon de la chaîne et sont ceux qui sont en contact avec les clients. Donc, le problème que je veux soulever ici au Conseil, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion avec les bureaux d'enregistrement sur l'impact que cela aurait. Dans les séances précédentes, on nous a demandé de participer, de travailler avec le Conseil, avec les NGPC. Et je n'aime pas utiliser ce terme, mais on n'a pas beaucoup progressé. Donc, ma question au Conseil, c'est quelle est votre suggestion pour que nous, en tant que bureau d'enregistrement, nous puissions le traduire dans les faits, parce que nous pensons que ce serait une excellente chose. Pouvons-nous créer une partie contractante entre les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre pour aider à donner des avis au Conseil? Peut-être que donner des avis, ça n'est pas le bon terme, mais il y a des connotations sur ce terme. Mais je sais que les bureaux d'enregistrement sont tout à fait disposés à travailler d'arrache-pied et travailler avec le bureau pour que cela soit mis en œuvre. Parce qu'il est clair qu'il y a des mauvaises compréhensions par rapport au processus de plainte. Et tout ce que l'on va pouvoir faire pour essayer de préciser les choses seront les bienvenus. Donc il y a une mauvaise compréhension des choses, les choses ne sont pas claires et ça n'est absolument pas ce qu'on veut. Donc est-ce que le Conseil a des conseils à nous donner pour faire en sorte que l'on remédie à cette question? Est-ce que vous pourriez nous aider là-dessus? Merci, Jeff. Fadi. Bonjour, Fadi. Akram, au micro. Oui, merci, Jeff. Merci de cette demande. Et nous sommes tout à fait disposés à nous asseoir avec vous pour essayer de trouver ensemble une mise en œuvre. Oui. En fait, en termes pratiques, que pouvons-nous faire pour que ces problèmes qui découlent ou qui interviennent au niveau du Conseil peuvent être solutionnés? Peut-être travailler sur la rédaction, sur le libellé, l'intitulé. Par exemple, les TLD de catégorie 1, en termes pratiques, comment travailler ensemble comme partenaire là-dessus pour améliorer les choses, pour que les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement et titulaires de noms de domaine, ce sont les plus importants finalement, puissent mieux travailler ensemble. Akram au micro, oui, je suis tout à fait disposée à relever ce défi, travailler ensemble avant de prendre ce type de décision, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir aborder après. Et travailler avec les bureaux d'enregistrement, ça serait quelque chose de beaucoup plus constructif. Mais peut-être qu'il faudrait le faire après. Jeff au micro, oui, je suis d'accord. Peut-être que si vous avez un groupe qui attend, ce serait pas une bonne chose. Mais effectivement, ce serait une bonne chose qu'on en parle tous ensemble et qu'on fasse avancer les choses. Michel, oui, merci. James. James a la parole. James au micro. Oui, excusez-moi, je suis un peu à faune. Donc, je vais céder la parole à Jennifer. Jennifer au micro. Oui. La validation des matrices pour les LEA et les spécifications RAA de 2013. De Whois, James, oui, au micro, oui, ça ne figurait pas à l'ordre du jour, mais nous avons des plaintes régulières sur le fonctionnement au niveau opérationnel, et donc il y a un certain nombre de problèmes par rapport à la vérification Whois. Et au nombre et au grand nombre de faux positifs. Donc, on essaie d'améliorer cela. On essaie d'aider nos clients à mieux comprendre. Et l'un des sujets qui a été soulevé à juste titre, d'ailleurs, c'est qu'il faut penser en tant que communauté à démontrer que on est en train d'améliorer la qualité des données et on est en train de se préoccuper de finalement des gens qui utilisent Whois. Et dans le au forum public à Durban, il y a eu un échange très intéressant avec Fadi. On travaille sur le développement de matrices pour mieux comprendre que la vérification, le processus de vérification Whois était en train de présenter des avantages évidents. Donc, Londres va avoir lieu un an après que cet engagement ait été pris. Donc, quel est le retour ou finalement, quel est l'impact de cet engagement qui a été pris? Est-ce que cet engagement a fait une différence ou pas? Akram? Akram au micro, oui. L'une des recommandations qui a émané du groupe de révision Whois a été de faire des analyses statistiques sur les données Whois et de les examiner en termes d'amélioration. Et de pouvoir partager ces données en ligne afin que tout le monde puisse voir les effets dans le temps, dans quelle mesure ces données sont valides. Donc, je pense que ainsi on pourrait traiter certaines des préoccupations. C'est un petit peu le point de départ et ça pourrait nous permettre de démontrer un petit peu l'avantage que cela présente. Pourrions-nous donner des perspectives à mesure qu'on avance par rapport à l'impact? Parce que on sait qu'on a une base qui est installée, on pourrait y travailler pendant des années. Mais cela, ça nous permettrait de traiter les demandes futures des bureaux d'enregistrement, parce que ça n'est pas forcément la fin des demandes de collecte de données ou de vérification de données ou de rétention de données. Mais il y a une confusion par rapport à ces cette question. Oui, Fadi au micro, ça va être fait d'ici Londres, la réunion de Londres.
Michele, Elliot et ensuite Mike. Elliot, oui, je pense que ce n'est pas les mesures que nous, les outils de mesure que nous cherchons, ce n'est pas l'exactitude des données de WIS. C'est un sujet des bénéfices que peut apporter cette exactitude. C'est la même chose pour la validation des bureaux d'enregistrement, de la publication du WIS, des contacts de domaine, de l'utilisation des contacts, des données de contact du domaine. Il est donc, c'est important que ces trois choses qui sont créées, qui ont créé des problèmes énormes pour les bureaux, pour les titulaires de noms de domaine, pas pour les bureaux d'enregistrement. Vous allez entendre parler de 100 000 et des centaines de milliers d'histoires où des business légitimes ont eu des problèmes. Il y a eu des problèmes au niveau de la fraude. Nous avons entendu des cas. Nous entendons parler de cas de pédophilie vis-à-vis des forces de la part des forces de l'ordre. Quel remède a-t-on pour cela? L'exactitude des données WIS ne sont pas les seules concernées. Nous avons James n'a pas lu exactement la phrase concernée. Cela dit, nous comprenons vraiment très bien. Nous allons travailler avec les forces de l'ordre pour démontrer les bénéfices. Et surtout, nous n'allons pas revenir vers vous pour obtenir des mesures supplémentaires jusqu'à ce que des bénéfices soient démontrés. C'est vous qui avez dit ça, Fadi. Et comme je le sais, la chose importante, si vous allez aujourd'hui, si vous parlez de, voyez ce qui se passe dans, surtout au niveau de la discussion sur la vie privée et des proxys, il y a des demandes supplémentaires qui ont été faites.
Michele, Mike ou Fadi, voulez-vous répondre à Fadi, à Elliot? Fadi, non. Mike, oui, merci d'avoir soulevé le problème. Mike Silbert, autant que nous essayons et de suivre les problèmes qui restent sur la table, Elliot a fait la distinction importante. Je pense que la question se pose sur ce qui peut bénéficier les forces de l'ordre. C'est certainement quelque chose dont nous pouvons discuter avec le personnel. Je ne peux pas forcer les forces de l'ordre de nous donner des informations, mais s'il y a lieu d'avoir une meilleure collaboration, il serait bon de voir ce qui donc va bénéficier les forces de l'ordre et d'encourager les participants à continuer à participer et à être en conformité avec les demandes à venir. Cet encouragement serait compris par les forces de l'ordre. Et d'avoir donc de mettre quelque chose en place d'ici Londres, c'est à eux de voir. Nous ne pouvons pas demander, nous pouvons seulement encourager. Michele Akram, je pense que vous voulez parler là-dessus. Akram, oui, ce que je voulais dire a été dit. Je voulais répondre à Elliot sur l'exactitude des données WIS avant de demander aux forces de l'ordre comment, si ces demandes ont aidé. C'est important de vous montrer que ce que nous avons mis en place a amélioré l'exactitude. Et cette amélioration a-t-elle aidé? S'ils disent que nous n'avons pas vu d'amélioration en ligne sur les données mêmes, ça répond à la question. Michele, oui, Elliot, oui, c'est bon, je comprends ça. Et rappelons à tous les gens dans cette salle que les bureaux d'enregistrement ont une voix, une, que ces, pour dire que ces mises en œuvre ne vont pas forcément aider, mais vont peut-être même créer des points négatifs. Et si c'est vrai que la bonne réponse, peut-être c'est d'enlever ces obstacles que nous imposons maintenant, tous les jours, des 10 000 dans des mille cas, les sites web des gens s'effacent. Donc, il faudrait peut-être revenir en arrière et essayer quelque chose de nouveau. Et en espérant cette fois-ci que la communauté va mieux écouter les contributions des bureaux d'enregistrement.
Alors, Michael et Jean-Béraud, je pense que mesurer la qualité des WHOIS et ensuite aller vers les forces de l'ordre, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Toutes les informations sur votre adresse et votre numéro de téléphone, tous les domaines qui utilisent ce genre d'informations, tous les sites où il y a des cas de vol d'identité ont toutes ces informations très exactes. Vous allez trouver de plus en plus de bureaux d'enregistrement qui font leur travail correctement. Et éliminer les gens qui ne sont pas criminels. Bon, la question n'est pas comment nous améliorons la qualité du WHOIS. Ah, on va dire maintenant, le crime a augmenté en utilisant les domaines. Il y a des tas de gens qui ne faisaient pas attention et n'ont pas fait attention aux criminels. Donc, il ne faut pas en arriver à un point où on va dire oui, tous les criminels sont vérifiés et que tout cela est bien fait. Steve Quaker, laissez-moi participer. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit. Ce n'est pas la première fois que cette idée est proposée. Et sans les forces de l'ordre dans cette salle, il est difficile d'avoir une discussion là-dessus. Certains d'entre vous, je suppose, en connaissent beaucoup plus sur le sujet. Quels sont les vrais cycles? Quels sont sur les choses qu'on pourrait tirer profit? Je serais donc intéressée d'avoir une idée, ne serait-ce qu'une idée, de quoi faire avec cette discussion. Elliot, vous dites non? Elliot, oui, je pense qu'il y a deux choses. Je n'ai jamais dit que c'était cher. Et je n'ai pas dit que cela faisait du bien, je dis que cela, c'était endommageant. Il y a des sites, il y a des gens qui perdent leur site web à cause de cette confusion. Steve Koch, bon, aussi, au GNSO, l'autre jour, quand Cyrus a dû se lever et défendre, il y a eu un dialogue là-dessus. Ce qu'on voulait dire, c'est que les forces de l'ordre veulent faire telle ou telle chose, mais où sont-ils dans ces discussions? S'ils veulent participer dans le modèle multipartite, encore une fois, on en parle sans arrêt. Il faut participer. On doit tous être plus efficaces au niveau du modèle multipartite. Donc, vous avez vu vis-à-vis... Je dis oui, nous étions là la première fois pour faire cela. Nous avons offert de faire cela la première fois. Et nous n'avons pas été écoutés. Bon. Et tous les bureaux d'enregistrement veulent bien participer. Steve Koch, ce n'est pas seulement vous en tant que bureau d'enregistrement, mais c'est vous en tant que leader qui a des connaissances. Elliot, vous dites, moi je suis vieux. Steve Koch, non, moi je suis vieux, vous êtes senior. Je connais Elliot très bien, c'est quelqu'un d'intelligent qui est très capable. Comment pouvez-vous nous avoir un meilleur dialogue sur ce sujet? Elliot, je vais vous donner une réponse là-dessus. Au lieu
d'avoir les contributions des forces de l'ordre à travers le Conseil, le GAC, dans des petites réunions, mais pas dans d'une façon plus intégrée. Nous avons le même objectif, tous le même objectif. Comment nous intégrons leurs contributions? Comment est-ce que nous obtenons un dialogue quand il y a une discussion avec les GNSO, cette discussion par exemple, ou une discussion plus large pour que vous puissiez dire oui, on va donc intégrer votre contribution, vous, les forces de l'ordre. Steve Cocker, oui, j'ai essayé moi-même il y a quelque temps et j'ai découvert que essayer d'obtenir le bon dialogue avec les forces de l'ordre, c'était difficile. Ils vont dire ce qu'ils veulent pour essayer de rentrer dans une discussion où ils peuvent trouver des évidences. Où sont vos données? Où sont vos évidences? J'ai eu deux problèmes. Je parlais pas aux personnes correspondantes. La deuxième, que je n'avais aucune idée des droits des gens, puis je suppose aussi qu'ils n'avaient pas les bonnes données. Shfa dit, oui, je suis d'accord avec Elliot, il est très important que les forces de l'ordre participent, comme toutes les autres parties prenantes. Et franchement, que cette relation triangulaire n'est pas en place. Je peux vous dire que j'ai rencontré les gens des forces de l'ordre ici à Singapour dans une réunion où ils m'ont invité à discuter avec eux et je leur ai demandé d'ici Londres de mettre à jour un plan actif et je vais leur donner du soutien pour le faire. C'est pas... Je veux être claire, je leur ai dit que nous pouvons les aider à mieux participer avec les communautés. Et je pense qu'ils ont accepté le défi. J'espère que nous allons y arriver d'ici Londres. Elliot, oui, je pense que ça a l'air, c'est une bonne, ça a l'air d'être excellent. Très bien. Michele, ok. Steve Cocker, merci. Michele, je pense que nous avons eu une bonne discussion, une discussion assez robuste. Et je passe la parole à Steve. Steve Cocker, oui, bien sûr, comme je l'ai suggéré. Et nous avons une bonne discussion, une discussion franche. C'est ce que nous recherchons. Je pense que nous avons fait du bon travail. J'apprécie vraiment la participation de chacun ici, de la part du conseil d'administration. Je vous remercie.
Let's give ourselves a round of applause.
Applaudissons-nous entre nous, nous-mêmes.